Alors, donc, Jude, et on va juste lire les derniers versets. Il y a 15 jours, on a passé du temps dans Jude. Il y a un mois, on a passé du temps dans Jude. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui, on va finir les titres de Jude. Donc, je vais lire à partir du verset 20. Jude, à partir du verset 20. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, à Dieu seul sage qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Cette lettre se termine avec ce qu'on appelle une doxologie. C'est un mot de louange, d'adoration à notre Dieu. Il y a plusieurs doxologies dans la parole de Dieu, surtout dans le livre des psaumes. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà mettre mon PowerPoint en route. Voilà, on vient de lire. Je vais souligner deux choses que je trouve dans ces versets. D'abord, ce que nous devons faire. Et ensuite, ce que Dieu... Bon, c'est parti. Ce que Dieu seul peut faire. D'accord? D'abord, ce que nous devons faire. Versets 20, 21, 22 et 23. Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit faire? Eh bien, je ne vais pas résumer toutes les pistes jusqu'à maintenant. Vous pouvez les écouter sur Internet ou alors demander mes messages sur papier et je peux vous les envoyer sans problème. Mais la première chose, selon Jude, que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est nous devons nous édifier. Édifiez-vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'édifier? Eh bien, Jude prend l'image, bien sûr, d'une construction. Et comme vous savez, on parle de construire sa vie, où certaines personnes parlent de reconstruire leur vie. Jésus prend aussi l'image d'une construction quand il dit, si vous écoutez mes paroles, eh bien vous construisez votre maison sur un roc. Si vous n'écoutez pas mes paroles, vous construisez votre maison, votre vie, sur du sable. Et ça va s'écrouler. Donc Jude nous dit, eh bien, construisez votre vie sur un fondement solide. Et le fondement, eh bien, il ne s'agit pas de notre confiance en nous. Il ne s'agit pas de nos acquis sociaux ou de nos acquis spirituels. Il s'agit de fonder, de bâtir notre vie sur la foi. Non pas sur notre foi, mais sur la doctrine biblique. Si nous voulons aller loin avec Dieu, nous devons construire notre vie sur un fondement solide. Et le seul fondement solide que nous ayons, eh bien, c'est la doctrine biblique, ou si vous préférez, la parole de Dieu. Construisons notre vie sur du solide, les amis. Lisons, lisons, lisons la parole de Dieu. Donc, première chose que nous devons faire, c'est nous devons nous édifier. La deuxième chose que Jude nous dit que nous devons faire, il dit « prier par le Saint-Esprit ». Alors, cette petite phrase a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que ça veut dire? Prier par, ou selon, ou dans le Saint-Esprit. Eh bien, il y en a qui croient que ça veut dire qu'on doit prier, quand on prie à haute voix, qu'on doit prier avec une voix sainte. Alors, personnellement, je ne sais pas ce que c'est une voix sainte. Mais il y a des gens qui croient que quand ils prient à haute voix, dans une réunion, ils doivent utiliser une autre voix, c'est-à-dire une voix sainte. Quand la personne me parle avant le culte, la personne me parle de façon normale. Quand la personne me parle après le culte, la personne me parle de façon normale. Mais si la personne prie au culte, la personne prend une autre voix. Alors, pour moi, prier selon le Saint-Esprit ne veut pas dire prier avec une voix sainte. Et comme j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est une voix sainte. Il y a d'autres qui disent, mais prier par le Saint-Esprit, ça veut dire prier avec une grosse voix. Et tout le monde entend. Et j'ai été dans des cultes où des gens crient. Et pas seulement les enfants ont peur, mais parfois, moi j'ai eu peur. En tant qu'adulte, on n'a pas besoin de prier avec une grosse voix. Et puis il y a d'autres qui disent, ah ben, ça veut dire qu'on doit prier avec une petite voix. Mais prier selon le Saint-Esprit ne veut pas dire prier avec une petite voix. Il y a d'autres qui disent, mais prier selon le Saint-Esprit veut dire prier en langue. Alors, il faut dire que nulle part dans la Bible, on nous dit que nous devons prier en langue. Nulle part. Je me rappelle que le don de parler en langue était le don que certaines personnes ont reçu et reçoivent, où on apprend une langue, où on parle dans une langue étrangère qu'on n'a jamais apprise. Et dans le Nouveau Testament, c'était pour évangéliser. Mais prier selon le Saint-Esprit ne veut pas dire prier en langue qu'on ne comprend pas. Alors, je vais vous donner deux petites propositions. Que veut dire prier selon ou dans ou par le Saint-Esprit? Eh bien, pour moi, prier par le Saint-Esprit signifie, quand on prie, on est confiant dans la puissance de Dieu. Ce n'est pas la peine de prier si on pense que Dieu n'est pas le Tout-Puissant. Quand on prie, on est soumis à la volonté de Dieu. Ça devrait éliminer toutes ces prières égoïstes où je prie pour moi, 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 moi. On doit penser, mais que veut Dieu dans cette histoire? Et quand on prie, on est soucieux de la gloire de Dieu. Que Dieu seul soit glorifié. On a parlé tout à l'heure, on a chanté de la grâce seule. Et une autre phrase clé des réformateurs était, à Dieu seul la gloire. Alors, si vous voulez prier dans le Saint-Esprit, eh bien, dites-vous bien, mais est-ce que j'ai confiance dans la puissance de Dieu? Est-ce que je suis soumis à la volonté de Dieu? Et est-ce que je suis soucieux de la gloire de Dieu? Que Dieu seul soit glorifié dans mes prières. Ça, c'est un élément de réponse. Mais un deuxième élément de réponse, prier dans le Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit, c'est d'être prêt à prier en tout temps. Vous savez, dans Éphésiens 6, verset 18, qui est sur l'écran, Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, « Faites-en tout temps toutes sortes de prières, veillez-y avec une entière persévérance. » Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse. » Un des versets les plus courts de la Bible. Trois mots, « Priez sans cesse. » Cela ne veut pas dire qu'on doit tous démissionner de notre boulot et passer du temps à prier. Mais ça veut dire avoir le réflexe de prier quand des choses nous viennent à l'esprit. Ça aussi fait partie de la réponse, mais que veut dire prier par l'esprit? Eh bien, ça veut dire être prêt à prier à tout moment. Quelle que soit notre activité à tel ou tel moment, on peut toujours prier. Qu'on conduise, qu'on fasse la vaisselle, qu'on change la couche du petit ou de la petite, ou peu importe. Avoir une attitude constante de prière. Ça, c'est aussi prier selon le Saint-Esprit. Et quand on prie, quand on a l'habitude de faire monter des prières fléchettes à tout moment, cela montre aussi que nous sommes convaincus d'avoir l'oreille de Dieu. Nous sommes convaincus que nos prières vont toucher le cœur de Dieu et nous allons voir tôt ou tard la main de Dieu. Prier selon le Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit signifie donc que je suis conscient que quand je prie, j'ai l'oreille de Dieu. Mes prières vont toucher le cœur de Dieu et tôt ou tard, je verrai bouger la main de Dieu dans ma situation ou dans la situation de ceux pour qui je prie. On peut ajouter autre chose qui revient un peu à ce que je viens de dire. Quand on prie par le Saint-Esprit, on prie avec confiance. On prie avec confiance. Hébreux 4, 14, 15 et 16 nous dit que nous pouvons approcher du trône de la grâce avec assurance. Quand vous priez, est-ce que vous faites confiance à Dieu? Si vous ne faites pas confiance à Dieu quand vous priez, eh bien, ce n'est pas la peine de prier. Il s'agit aussi de prier avec confession. Le psaume 66, verset 18, nous dit, David nous dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Si nous avons le péché en nous, et si nous vivons loin de Dieu et on veut prier, eh bien, la prière ne montera pas plus haut que le plafond. Nous devons prier tout en confessant nos péchés, avec repentance. Prier aussi signifie de prier avec sincérité. Ne faites pas comme les hypocrites, dit Jésus de Matthieu 6. Plusieurs fois, ne faites pas comme les hypocrites. Et vous savez aussi bien que moi, un hypocrite ne sait pas ce que c'est d'être sincère. Et quand nous prions, qu'on soit seul, qu'on soit deux ou trois, donc qu'on soit dans une église, eh bien nous devons toujours prier avec sincérité. Et je peux vous dire que tôt ou tard, si on a l'habitude de prier sans sincérité, eh bien les gens vont reconnaître et discerner que nos paroles ne sont pas en accord avec notre cœur. La sincérité. Et aussi prier avec persévérance et avec humilité. Dans Luc 18, Jésus raconte deux paraboles. Il est écrit, il raconte ces paraboles pour encourager les chrétiens, les disciples, à prier sans se décourager. Et ces deux paraboles, c'est la parabole du juge inique avec la veuve qui vient lui casser les pieds. Littéralement, c'est ce qu'elle fait. Et aussi la parabole du pharisien et du publicain qui prie dans le temple. Et Jésus dit que c'est le publicain qui est humble devant Dieu, qui est justifié devant Dieu. Vous pouvez lire ces paraboles sur la prière chez vous, Luc 18, 1 à 14. Donc, Jude nous dit, eh bien, priez par le Saint-Esprit. Et je vous encourage à réexaminer votre vie de prière. Est-ce que vous priez régulièrement, souvent, constamment ou presque jamais? On peut cocher la bonne case. D'ailleurs, il était annoncé que jeudi prochain, c'est la dernière réunion de prière de l'Église jusqu'au mois de septembre. Alors, si vous avez des sujets de prière, et on a tous des sujets de prière, eh bien, on peut intercéder ensemble jeudi soir à 20h. La troisième chose que Jude nous dit ici, restez dans l'amour de Dieu. Verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous demeurez? Pas mais David, je demeure à Tille, ou je demeure à Oulin, ou je demeure à Lyon 8e, ou je demeure... Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Où est-ce que vous demeurez? Où est-ce que vous avez l'habitude d'habiter? Dans le Pas-de-Calais, pas loin de là où on habitait, il y avait un lieu dit qui s'appelait la grâce de Dieu. J'aurais bien aimé habiter dans la grâce de Dieu. Mais il n'y avait que 4 maisons et pas de boulangerie. J'aurais eu du mal à habiter dans la grâce de Dieu. Mais habiter dans la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Recevoir l'amour de Dieu dans sa pensée, dans son cœur, de toute sa force. Le Seigneur même, bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur même, il est amour. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime, quoi qu'il vous arrive? Jésus dit dans Jean 15, demeurez en moi. Et il dit dans Jean 15, demeurez en mon amour. Restez attachés au cep, mais restez attachés à l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. La quatrième chose que Jude nous dit, attendez le retour du Christ. Il est dit de façon un peu bizarre, verset 21, en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Autrement dit, attendez que Jésus revienne. Attendez le retour du Christ. Il dit littéralement, regardez avec anticipation le jour où Jésus va revenir. Ou une autre tradition, pensez-y avec enthousiasme. Anticipation, enthousiasme. Paul nous dit quand il écrit à Tite, ce jour-là, il y aura une grande manif, ou une grande manifestation. Une grande manifestation de la compassion, de la miséricorde de Dieu. Quand Jésus va revenir, tous le sauront. Tous le sauront, pardon. Tout le monde saura que c'est lui. Quand Jésus est venu la première fois, peu de gens ont compris qui était cet homme-là. Mais quand Jésus va revenir une deuxième fois, il n'y aura aucune erreur quant à son identité. Tous sauront que c'est lui, le Seigneur Jésus. Il viendra pour nous sauver ou alors pour nous condamner. Si vous êtes à lui, si vous demeurez dans son amour, il viendra pour vous sauver. Si vous ne connaissez pas son amour, si vous rejetez son amour, il viendra pour vous condamner. Il y a des églises où on parle constamment du retour de Jésus. Tous les dimanches, on en parle. Et d'autres églises où on ne parle presque jamais de l'amour de Jésus. Les deux extrêmes sont des erreurs. Il faut y penser. Il faut en parler. Et Jude, justement, nous dit, mais attendez le retour de Jésus. Sachez qu'il va revenir et soyez prêts pour ce jour-là. Il viendra comme un voleur dans la nuit. On ne sait pas quand le voleur va frapper chez nous. Enfin, il ne frappe même pas. Hein. Il rentre. S'il frappait, on aurait pu réagir. On ne sait pas quand il va venir. Mais soyons prêts. Et la cinquième chose qu'il nous dit, nous devons agir en faveur des autres. Il parle d'agir en faveur de ceux qui se perdent et en faveur de ceux qui ont des problèmes, des difficultés. Eh bien, bien sûr, un chrétien doit prier. Jude nous dit. Un chrétien doit aimer le Seigneur. Jude nous le dit. Un chrétien doit attendre le retour du Christ. Jude nous le dit. Mais Jude dit, il doit faire autre chose. Il doit aussi agir en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Alors ici, Jude s'adresse à des chrétiens, à des individus, et à des groupes, à des églises. Autrement dit, il est en train de nous dire, mais travaillez. Occupez-vous. Faites quelque chose pour ceux qui sont dans le besoin. Alors, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, vous avez remarqué peut-être, ou peut-être je l'ai déjà dit, dans « À toi la gloire », il y a un chant qui dit « Prie, agis, jour après jour ». Et le numéro de ce chant, dans « J'aime l'Éternel », dans « À toi la gloire », c'est le numéro 365. Et combien de jours dans l'année? Normalement, 3 fois sur 4, 365. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, ou si c'est une coïncidence, on va dire. En tout cas, nous devons prier et nous devons agir jour après jour. La semaine dernière, quand on était à cette conférence en Italie, les chrétiens italiens disaient que en 91, 92, quand les Albanais ont fui leur pays suite à un changement de politique, des milliers sont arrivés en Italie et beaucoup d'églises italiennes ont dit, mais ce sont des gens qui ont besoin du Seigneur. On va leur donner à manger, on va leur donner des habits, on va leur donner des médicaments, mais on va leur donner des évangiles. Et parmi les Albanais qui étaient en Italie, certains se sont convertis et sont repartis dans leur pays. Et aujourd'hui, il y a un mini-réveil en Albanie. Avant 90, il y avait presque zéro chrétien. Mais Dieu a utilisé un drame humanitaire pour que des gens se convertissent et des églises puissent naître. Les chrétiens italiens ont essayé de faire quelque chose pour ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ce que Jude nous dit ici. En ce moment, en Jordanie, il y a beaucoup de chrétiens qui font un travail dingue parmi les millions de réfugiés irakiens et syriens. J'ai vu des photos, ils sont parqués dans des tentes partout dans le désert en Jordanie, mais Dieu agit. Parce que les chrétiens veulent agir en faveur de ceux qui souffrent. À Pâques, à Tel Aviv, une église évangélique a décidé de faire un repas spécial, un repas de Pâques, pour les survivants de la Shoah. Vous savez, en Israël, il y a à peu près 200 000 juifs qui ont vécu les camps de concentration. Et la moyenne d'âge, c'est 85 ans. C'est normal, hein, ça s'est passé il y a 70 ans et plus. Mais beaucoup de juifs convertis veulent évangéliser et aider ces juifs non convertis. Donc, ils donnent à manger, ils donnent des affaires, mais ils donnent aussi la parole de Dieu. Alors, on peut se dire, mais à notre niveau, qu'est-ce que nous, on peut faire? Eh bien, il y a des gens qui font des choses dans l'Église. Parfois, l'Église est appelée à faire des choses. Mais encore, on doit se poser des questions. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire pour agir en faveur de ceux qui souffrent? Tout le monde ne peut pas partir au Burkina Faso, à Brazzaville ou ailleurs. Mais on peut faire des choses. Et on doit chercher la volonté de Dieu. Mais Seigneur, que veux-tu que moi, je fasse pour obéir à cet ordre? Agir en faveur des autres, en faveur de ceux qui doutent, en faveur de ceux qui ne croient pas. Et pour terminer, donc, voilà ce que nous devons faire, ces cinq choses, mais voilà ce que Dieu peut faire. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Eh bien, il dit, il peut nous garder de toute chute. Ce petit mot « peut » du verbe « pouvoir ». On trouve ça dans plusieurs textes importants dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Hébreux 7, d'ailleurs je crois que tout est affiché, voilà. Dans Hébreux 7, il est écrit « Jésus peut nous sauver ». Pardon, parce que si Jésus ne pouvait pas nous sauver, on serait perdu. Jésus peut nous sauver. Romains 16, 25, le Seigneur peut nous affermir. Hébreux 2, 18, le Seigneur peut nous secourir. Ésaïe 26, verset 3, le Seigneur peut nous garder dans une paix parfaite, à condition que nous gardions nos yeux fixés sur lui. Éphésiens 3, 20, le Seigneur peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer ou penser. Le Seigneur peut faire tant de choses. Et ici, nous lisons, le Seigneur peut nous garder de toute chute. Il peut nous garder de glisser, de tituber, de trébucher, de perdre l'équilibre, de chavirer, de couler. Vous mettez toutes les images que vous voulez. Mais le Seigneur peut nous garder. Mais parfois, c'est nous qui sommes le problème. Parfois, nous voulons faire notre truc. Et si nous faisons notre truc, eh bien le Seigneur ne promet pas de nous garder. Mais si nous voulons rester fidèles envers le Seigneur, il peut nous garder. Et nous garder dans sa main en sécurité. C'est pour ça que Jude conclut en disant, à ce Dieu-là, soit majesté, force, puissance, gloire. Si vous regardez des textes dans l'Apocalypse, vous retrouvez les mêmes choses. Les 24 anciens, les chrétiens adorent le Seigneur et ils disent « À toi seul, majesté, force, honneur, puissance et gloire. À Dieu soit la gloire dans son grand amour », nous chantons parfois. Et Jude est tellement pris par ce Dieu puissant qui peut tout. Eh bien, son cœur réagit et un chant de louange jaillit de son cœur et il dit à Dieu seul, louange, gloire, majesté et honneur. Parce qu'il sait que Dieu peut nous garder. Et c'est pour ça que quand nous faisons des choses, on doit demander au Seigneur, protège-nous, garde-nous, veille sur nous. Parce qu'il y a un monde spirituel qui nous veut du mal. Le diable n'est pas notre ami. Et le Seigneur veut nous protéger et nous garder en toutes choses. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons prier par le Saint-Esprit. Nous devons nous édifier sur la parole de Dieu, construire notre vie sur le roc. Nous devons aussi vivre dans l'amour de Dieu. Nous devons attendre son retour et nous devons agir en faveur de ceux qui doutent, de ceux qui s'éloignent, de ceux qui sont loin. Et le Seigneur promet, eh bien, il va nous sauver, il va nous affermir, il va nous secourir, mais lui seul peut nous garder, nous empêcher de glisser, nous empêcher de trébucher. À 11h56, c'est presque 11h56 d'ailleurs, à 11h56 le dimanche, le samedi 25 avril, donc il y a quelques semaines seulement, au Népal, les chrétiens finissaient leur culte et vous savez ce qui a commencé à se passer? Quelque chose de terrible. Et un des chrétiens, je l'ai vu cette semaine, il a dit, la terre a commencé à trembler. Les gens qui étaient au culte, qui ne connaissaient pas le Seigneur, tout de suite, se sont sauvés. Et les chrétiens ont regardé vers les anciens. Comment est-ce que les anciens vont réagir? Et les anciens, un ou deux, se sont levés pour dire, prions. Ils ont prié par le Saint-Esprit pendant les 2 minutes ou 2 minutes 30 que la terre a tremblé. Ils ont prié, Seigneur, protège-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, garde les nôtres. Ils ont prié tout simplement, les uns après les autres, très rapidement. Personne n'a prié pendant 20 minutes. Hein. Chacun a prié 5 secondes, 10, 15 secondes, tout en pleurant, tout en tremblant. Le Seigneur a arrêté le tremblement de terre. Il ne savait pas à ce moment-là que 700 chrétiens dans le pays allaient mourir dans ce tremblement de terre. Mais les chrétiens ont prié par le Saint-Esprit et depuis 2 mois maintenant, ils prient par l'Esprit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ceux qui n'ont plus rien? Chrétiens et non-chrétiens. Parce qu'ils savent que l'aide qui vient de l'extérieur ne va jamais aux chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens. Sauf l'aide qui vient des associations chrétiennes. Eh bien, les chrétiens sur place essayent d'aider, d'agir en faveur de ceux qui sont dans le besoin. En temps de crise, ils ont prié par le Saint-Esprit. Depuis la crise, ils sont toujours en crise. Ils prient par le Saint-Esprit. Et je vous encourage, quand vous priez, priez tout simplement. Laissez-vous conduire par Dieu, par l'Esprit. Il vous conduira et il vous fortifiera et il vous gardera. Merci Seigneur pour cet épître de Jude, 25 versets seulement, mais tellement riche. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour qui nous a fait tant de bien et qui tous les jours nous fait tant de bien. Nous te prions de nous aider à vivre, à demeurer dans ton amour, à nous maintenir dans ton amour. Aide-nous à voir ce que tu attends de nous par rapport à nos contemporains, par rapport à ceux qui souffrent, qu'ils soient près ou loin. Aide-nous aussi, Seigneur, à être prêts à toujours te faire confiance. Toi seul, tu peux nous garder. Seigneur, protège-nous lorsque nous sommes face à la tentation, lorsque nous sommes face au danger. Garde-nous, garde les nôtres, nos bien-aimés aussi. Et merci, car tu peux faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Merci pour ta grande puissance. Aide-nous, Seigneur, à vivre soumis à ta volonté, confiant dans ta puissance et soucieux de ta gloire. À toi seul, Seigneur, revient la gloire. Au nom de Jésus. Amen.